Vous écoutez
RMC.
Il est 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Un réveil un petit peu plus doux ce matin pour des dizaines de milliers d'évacués de Gironde, autorisés hier à rentrer chez eux. Nous serons avec eux au Hayan près de Bordeaux dès le début de ce journal. Mais la situation reste très instable sur cet incendie. La nuit a été calme, dit la préfecture, mais la canicule aujourd'hui fait craindre le pire. Et puis scandale dans les instances mondiales du foot, des parts de la FIFA peut-être bientôt vendues à des investisseurs proche de Donald Trump.
Les nouvelles sont donc assez rassurantes ce matin en Gironde. L'incendie est toujours stabilisé.
Et la nuit a été calme, annonce la préfecture du département. La surface brûlée n'a pas évolué. Il y a donc un début de soulagement ce matin autour du bassin d'Arcachon et de Bordeaux. D'autant plus qu'environ 60 000 habitants évacués ce week-end sont autorisés à rentrer chez eux. C'est le cas pour trois communes, Mérignac, Aisin et le Hayan, donc près de Bordeaux. Le Hayan, où vous vous trouvez, Marion Gauthier pour RMC, en direct avec nous ce matin. Marion, les habitants que vous avez rencontrés se réveillent un peu plus soulagé.
Oui, heureux en tout cas d'avoir quitté les appartements exigus des proches, les centres d'accueil parfois, de retrouver de la place, leur espace. Premier café chez elle depuis vendredi pour Martine. Je la vois ouvrir les volets de sa petite maison pleine d'espoir.
Hyper contente de revenir. J'ai crié, j'ai sauté de joie, j'ai dit enfin on est libre. Maintenant je suis les informations de très près parce que ça reprend de partout. On pense que cet état et puis avec les chaleurs, le feu reprend de manière permanente et ça me fend le cœur. Moi qui fais beaucoup de rando et je me dis c'est terminé, je suis extrêmement peinée de tout ça.
Et à ses pieds, un sac et une valise. La préfecture a demandé hier aux habitants de se tenir prêts à repartir. Légère inquiétude pour Carlos qui promène son chien dans les rues silencieuses.
On a le portable allumé, il y en a toujours le sac de prêt. En rentrant hier soir, on l'a préparé pour le laisser dans l'entrée.
Vous avez mis quoi alors?
Un peu plus de sous-vêtements.
Est-ce que vous êtes prêt à repartir?
Non, on n'est jamais prêt de repartir, mais oui, s'il faut, oui, on va repartir.
Et ils sont plusieurs à s'étonner ce matin de voir peu de monde revenu. Réseau de bus pas encore rétabli, remarque un travailleur en peine de transport. Rideau levé chez un primeur ou un boucher. Mais il faut faire demi-tour devant la boulangerie. La plupart des commerces restent fermés.
Marion Gauthier en direct du Hayan pour RMC. Dans le même temps, à quelques kilomètres, 4000 touristes ont été évacués préventivement de Lacanau. Peu de changements par contre, hein, côté transport, toujours pas de TGV aujourd'hui au sud de Bordeaux, excepté pour Agen et Toulouse. L'autoroute A63 reste fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne.
La bataille contre le feu, elle continue, mais la nuit a été plus calme.
Même si c'est à prendre évidemment avec précaution, car la situation reste très instable. Les fortes chaleurs du jour font redouter le pire. Les pompiers vont devoir redoubler de vigilance, mais les nouvelles sont tout de même encourageantes, témoigne le maire du Temple, au nord du bassin d'Arcachon, Olivier Allard, invité d'RMC ce matin.
C'est très calme actuellement sur le Temple. Alors, c'est pas parce que c'est calme qu'il va rien se passer, hein, mais c'est vrai que les petites reprises, c'est assez facile de les enrayer avec les volontaires, avec les pompiers. On peut dire que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le secteur est calme. Comme tous les matins, hein, je dirais, il n'y a pas de vent. Le vent se lève un petit peu plus tard. On a prévu un vent de sud-ouest. Il va faire très chaud. Donc on s'attend à des reprises, mais les pompiers sont là, les bénévoles sont là. Donc tout est sous contrôle.
Il y a les pompiers qui luttent et en parallèle la solidarité qui s'organise à Lacanau. Les habitants, des bénévoles, des agents de la ville ont créé une véritable base arrière dans la salle des fêtes pour aider ces pompiers sur le terrain, pour les nourrir, les soigner, les soutenir. Reportage de notre correspondant Pierre Bourgès.
Melon, pizza, crêpes, tout est prêt sur la table face à la salle des fêtes. Ce militaire passe se ravitailler.
Bonjour, qu'est-ce que tu veux?
Je veux bien peut-être une petite barre céréales, si tu veux quelque chose comme ça.
Ouais,
merci beaucoup.
Bon courage, à tout à l'heure.
Trois bénévoles sont chargés du service et juste derrière, Valérie s'occupe des stocks donnés par les habitants.
Il y a des salades en boîte pour manger sur le pouce, il y a des compotes, il y a des gâteaux secs. C'est un élan de solidarité qui est absolument incroyable.
Cette enseignante donne de son temps depuis le premier jour.
C'est normal de venir et qu'en plus... On se sent utile et les journées passent beaucoup plus vite, elles sont beaucoup moins anxiogènes.
Avec elle, une centaine de bénévoles se relaient pour aider pompiers et forces de l'ordre qui peuvent manger, dormir et même se faire masser. Même les enfants mettent la main à la pâte comme Billie Jane.
On s'est occupé du stand à crêpes là-bas, on les a distribués à tout le monde et puis ils étaient contents.
De quoi attendrir ce gendarme venu reprendre des forces.
Ah là, j'ai pris mon petit 4 heures comme les enfants, hein, un petit frère pâtissier. Ça fait du bien au moral. Les gens sont souriants, ils sont attentifs, ils demandent bien si on a soif, si on a faim. Et après, ils feront, pour ceux qui se reposent, ils sont discrets, il n'y a pas trop de bruit aux alentours. Donc, c'est vraiment agréable.
La salle des fêtes restera ouverte jusqu'à la fin de l'incendie.
Et cet élan de solidarité, on continue de l'alimenter ensemble sur RMC. RMC qui bouscule ses programmes jusqu'à midi. Standard ouvert, on vous attend au 3216 sur le WhatsApp RMC. On lit tous vos messages si vous voulez donner un coup de main, si au contraire vous faites partie des évacués, que vous avez besoin d'aide et que vous voulez lancer un appel. On attend tous vos témoignages, le monde économique aussi. Le 3216, le 06 12 424 424 pour nous écrire sur WhatsApp.
Cette solidarité, ce soutien aux pompiers, il va en falloir aujourd'hui à cause de ce pic de chaleur attendu dans la région. Plus de 40 degrés prévus. La Gironde et les Landes en vigilance orange canicule dès midi. La journée s'annonce à haut risque, ce que redoute le lieutenant David Macri de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Pour qu'il y ait du feu, si on revient à la base, il faut trois éléments. De l'oxygène, donc on l'a dans l'air. Il nous faut un combustible, c'est notre végétation qui est très sèche, et de la chaleur. Ces trois éléments sont déjà réunis, on les a déjà. Et donc du coup, avec des augmentations de la chaleur ambiante, plus du vent qui va souffler, ça veut dire que ça va attiser les points chauds et potentiellement on peut se retrouver avec des reprises de feu et c'est ce qui nous inquiète le plus.
Vigilance en Gironde pendant que dans le Var, le feu parti du Gros Bessillon est enfin fixé. Il n'est pas encore éteint. Un homme de 23 ans a été placé en détention provisoire et mis en examen. Il est soupçonné d'être à l'origine d'une dizaine de mises à feu, notamment des reprises de feu.
Il est 8h07 sur RMC. C'est donc un quatrième épisode de canicule qui démarre en France. 16 départements vont basculer en vigilance orange à midi.
Et redouter cette canicule, notamment dans les hôpitaux, dont certains attendent toujours les climatiseurs promis par le gouvernement. 30 000 avant le 31 juillet, c'était la promesse. Mais pour l'instant, le compte n'y est pas, Vincent Chevalier.
À l'annonce du gouvernement, l'hôpital de Château-Thierry a commandé une trentaine de climatiseurs pour renforcer son dispositif. Cyril Marais, le directeur.
On a reçu la moitié donc au fur et à mesure donc jusqu'à aujourd'hui. Et puis on attend l'autre moitié là qui devra arriver dans les jours ou les semaines qui arrivent.
Pour l'instant, impossible de savoir quand ils arriveront. Alors en attendant, les équipes doivent prioriser.
On les met dans les endroits où il y a le plus de besoins, notamment où il y a des personnes plus vulnérables par rapport à d'autres. Donc après, ce sont des choix qui sont faits en interne pour pouvoir faire au mieux justement par rapport à tout ça.
Lui aussi. Attend, Vincent Prévoto n'a reçu que la moitié du stock commandé pour ces 6 établissements. Mais le directeur des hôpitaux du Nord Aveyron, également président de l'association des directeurs d'hôpital, n'est pas très étonné.
Si on n'a pas le reste des 50%, c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup de demandes. Donc il y a eu une réactivité très rapide des établissements. Moi, j'ai échangé avec plusieurs collègues. Et c'est vrai qu'il y a eu une forte mobilisation et ça a été une annonce suivie des faits très rapidement.
D'autres établissements sont plus critiques et dénoncent l'impréparation du gouvernement. Beaucoup ne savent pas encore à quelle hauteur ils pourront être remboursés.
Il avait demandé à tous les parquets de France de réexaminer toutes les plaintes et procédures pour violences sexuelles sur mineurs. C'était dans le sillage de l'affaire Liana. Près de 2 mois plus tard, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, annonce son bilan. 924 personnes incarcérées depuis pour de tels faits. Une hausse de 134% par rapport à la normale.
Encore quelques heures avant que les salariés de Fibre Excellence ne soient fixés sur leur sort.
C'est aujourd'hui que le tribunal de commerce de Toulouse doit rendre sa décision sur le numéro 1 français de la pâte à papier. Une première offre de reprise, celle de l'homme d'affaires Mathieu Pigas, a été rejetée. Le site de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône doit être liquidé, mais celui de Saint-Gaudens près de Toulouse pourrait être sauvé, Antonin Audion, grâce à une autre offre, celle d'un industriel.
Oui, c'est déjà la crédibilité et le sérieux de cette lettre d'intention qui vont être étudiées par le tribunal. Sur notre antenne hier, le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, parlait d'un vrai industriel. Selon nos informations, il produit des isolants dans l'est de la France. Ensuite, il faut que l'investisseur consigne aujourd'hui les 2 millions d'euros qu'il a proposés pour assurer la continuité de l'activité sur le site de Saint-Gaudens pendant un mois. Si la proposition arrive à convaincre le tribunal, il pourrait accorder un délai d'un mois supplémentaire. Dans ce délai, l'industriel alsacien devra consolider son offre de reprise, sans quoi l'usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens risque la liquidation judiciaire.
Antonin Audion. Et puis l'UEFA crie au scandale et va se réunir en urgence cette semaine à cause de Gianni Infantino qui envisage de vendre des parts de la FIFA à des investisseurs proches de Donald Trump. Plusieurs médias américains l'avaient révélé. La FIFA elle-même le confirme. Clément Brossard, cela fait déjà scandale sur la planète foot.
Gianni Infantino ne cesse de le répéter, la FIFA est une organisation à but non lucratif. Mais la réalité, c'est qu'il est souvent question de business autour de la Fédération Internationale de Football. Nouvelle idée de son président, créer une société commerciale liée à la FIFA, une nouvelle entreprise qui pourrait rapporter 17,5 milliards d'euros. L'organisation internationale resterait majoritaire, mais 20% des parts seraient à vendre. Et selon The Times, un favori se distinguerait pour devenir actionnaire minoritaire, un fonds d'investissement américain piloté par le frère cadet de l'ancien haut conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec qui Gianni Infantino aurait déjà discuté. De quoi faire enrager la Confédération Européenne du Football qui estime que des limites ont été franchies. Aucun d'entre nous n'est propriétaire du football, affirme l'UEFA dans un communiqué avant de conclure. Il n'appartient pas à la FIFA de le vendre.
Précision de Clément Brossard.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 8h10 sur RMC. On reçoit déjà beaucoup de messages sur le WhatsApp RMC, notamment sur ces appels à la solidarité. Victor ?
Oui, on a d'abord Vince qui nous dit « Je souhaiterais faire un don pour les incendies en Gironde. Avez-vous des infos ?» Oui, Vince, vous savez que RMC s'associe au Secours Populaire pour pouvoir mobiliser des dons à destination des sinistrés. Pour cela, vous vous rendez sur le site du Secours Populaire. Il y a une page dédiée pour les incendies en Gironde, ou alors vous contactez par adresse postale l'antenne locale du Secours Populaire. On a aussi Vincent, on a aussi Patrick qui, eux, proposent des chambres à louer ou alors des logements à louer pour aider les sinistrés. On a également Roux qui nous dit « J'habite à Lille et j'aimerais envoyer des vêtements pour des hommes, des femmes et des enfants, même des bébés. Comment faire ?» Pour cela, 9h midi, édition spéciale incendie. Le standard vous est ouvert. Vous composez le 32-16 entre 9h et midi pour pouvoir organiser tous ces dons et les acheminer vers les sinistres.
La RMC qui bouscule ses programmes jusqu'à midi. On attend tous vos témoignages. Il est 8h12 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Après l'incendie, Emmanuel Macron veut rebâtir une forêt différente, l'adapter au changement climatique. Alors faut-il abandonner les plantations de pins maritimes en Gironde, ce qui est le modèle économique de cette forêt des Landes ? La réponse ce matin des propriétaires de cette forêt, propriétaires privés, qui dénoncent des normes parfois contradictoires de la part de l'État. On y revient dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h15, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bonjour Antoine Damécourt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de France Silva, c'est la fédération des propriétaires forestiers privés. 90% de la forêt des Landes qui brûle depuis une semaine maintenant est une forêt privée, forêt de pins maritimes exploitée par la filière bois. Et c'est ce qui pose question depuis des années maintenant. Est-ce qu'il faudra replanter différemment ? C'est ce que dit Emmanuel Macron qui veut rebâtir une forêt différente. Est-ce qu'on a construit une bombe en Gironde et dans les Landes en plantant ces forêts de pins maritimes extrêmement inflammables ?
Alors, je voudrais d'abord afficher au nom des 3 500 000 familles de propriétaires notre soutien à tous les gens qui luttent contre cet incendie et tous les bénévoles qui dans les Landes et aussi dans le Var, hein, parce qu'il ne faut pas oublier le Var en ce moment qui brûle et plein d'autres endroits, mais c'est vrai que toutes ces zones de feu en France, c'est un vrai drame. Donc, votre question sur la... Est-ce qu'on a construit une bombe ? Écoutez, avant Napoléon III, c'était des Landes, comme le nom l'indique. Et donc,
c'était une zone humide qui a été asséchée, puis on a planté des pins, et désormais, c'est un champ de pins.
Elle est asséchée par les pins qui consomment de l'eau, mais avant, c'était une zone humide dans laquelle personne ne voulait habiter, parce qu'on attrapait, même par les insectes et les moustiques, le paludisme, et on ne voulait pas y vivre dans cette zone. Aujourd'hui, c'est le plus grand massif forestier artificiel d'Europe. Évidemment, c'est artificiel. Le pin maritime est un bois formidable. Et donc, ça fait vivre toute une filière. Donc, on ne peut pas dire qu'on a construit.
Mais qu'est-ce qu'on
bombe.
Fait maintenant ? Alors, est-ce qu'on peut encore se permettre, avec les évolutions du climat, de cultiver, de replanter des pins en lieu et place de tout ce qui a brûlé ?
Ah ben, je pense que ce sera indispensable, parce que d'abord, le pin, en vue du climat, les bois fixent le carbone, donc on a besoin, dans nos objectifs 2050 et les objectifs de maintien des règlements climatiques pas trop importants et d'augmentation de température, ça passe par le stockage de la forêt qui naturellement stocke le carbone de l'air et pour le mettre dans la construction. Parce qu'avec
la forêt n'est pas en cause, mais vous entendez tous ces spécialistes de l'environnement qui pointent souvent la monoculture, c'est le fait de n'avoir que des pins. Est-ce qu'on peut mettre d'autres essences?
Oui, mais vous voyez, depuis très longtemps, les sylviculteurs, qu'ils soient publics ou privés, d'ailleurs, parce que l'ONF aussi le fait, on est dans des zones où le seul arbre qu'on ait trouvé qui pousse bien dans cette zone de marais, c'est le pin maritime. Alors, on fait des essais depuis toujours. On a vu que le bouleau pouvait être une essence très intéressante en feuillus dans ces zones des Landes. Mais par contre, il faudrait l'arroser l'été. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, arroser la forêt l'été, ça passerait pas non plus. Donc, il y a des essais qui sont faits depuis toujours. Mais on se rend compte que finalement, quand il y a un grand feu, que ce soit du feuillu, des résineuses, ça brûle. Donc, moi, il y a trois sujets, hein. C'est la prévention, la lutte et la reconstitution. Donc, la prévention, 92% des départs de feu sont dus aux activités humaines. Donc, le gros problème, il est là, la bombe, elle est là. Et c'est là que, heureusement, que vous, les médias et tout, vous nous aidez à communiquer sur le fait qu'il ne faut pas jeter un égo en bordure de route, sur le fait qu'il ne faut pas faire un barbecue dans des zones à risque quand il fait très chaud, sur le fait qu'il ne faudrait pas, et là c'est le cas, faire du girobroyage l'été. Parce qu'avec un girobroyeur, on peut allumer un feu.
Tout ça est bien connu. La question, c'est comment on replante. Pour vous, on va repartir comme avant et on va replanter des pins pour maintenir cette activité économique. Il n'y a pas d'autre scénario possible.
Oui, on a différents pins qu'on peut planter, on a différents feuillus qu'on peut planter, mais on fait des essais depuis les incendies de 1949. Il a été fait des essais, mais c'est un sol, en fait, c'est un sol de sable qui est gorgé d'eau l'hiver et qui est très 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 sec l'été. Donc, les environnementalistes, s'ils ont une essence formidable qu'on peut implanter et qui poussera, qui fera du bois pour fixer du carbone, pour justement limiter le...
On parle du chêne liège, par exemple?
Oui, mais le chêne liège, ça pousse très doucement. Il en a été planté dans le sud-ouest. Hein. Il y a d'autres problèmes sur le chêne liège, et le chêne liège, il brûlera aussi, parce qu'on récolte l'écorce, et qu'une fois, parce qu'il faut qu'il y ait une récolte. Donc le chêne liège, sa production, c'est la production de l'écorce qu'on enlève régulièrement pour faire du bouchon. Et donc, un chêne, quand j'entends des environnementalistes qui disent grâce à son écorce, il brûlera pas, ben oui, mais l'écorce, une fois qu'elle est récoltée, s'il y a un feu, sans son écorce, il brûlera aussi, enfin, il sera impacté aussi.
Antoine Abeco, la ministre de la Transition écologique a annoncé un plan pour la forêt, 100 millions d'euros du fonds vert seront consacrés à rendre les massifs plus résilients. À votre avis, il faut utiliser cet argent pour faire quoi?
Mais écoutez, la ministre Barbu, il y a un mois et demi, il y avait un fonds de renouvellement qui suivait la volonté du président Macron de planter 1 milliard d'arbres. Et il y a un mois et demi, elle nous a annoncé qu'elle clôturait ce fonds de renouvellement de la forêt. Donc je veux bien qu'aujourd'hui elle nous dise qu'elle promet plein d'argent, on va discuter avec elle. Mais en tout cas, ça va être pour reconstituer tout ce massif. Et nous, notre souhait, les forestiers, c'est que les massifs ne soient pas uniformes. Mais malheureusement, derrière 40 000 hectares de brûlés, quel que soit ce qu'on va planter, on va planter tout sur l'espace de, je sais pas, 5 ou 10 ans, parce qu'on va peut-être pas tout faire la même année. Mais donc on va partir sur un massif jeune. Et un massif jeune, évidemment, c'est plus impactant pour le feu dans les années à venir. Donc encore une fois, prévention, prévention, prévention. Et vous voyez, quand on nous dit les forêts ne sont pas entretenues, c'est pour ça qu'elles ont brûlé. Eh bien aujourd'hui, on nous interdit de faire des travaux de broyage en forêt, on nous déconseille en tout cas, entre le 15 mars et le 15 juillet, parce que c'est la période où il y a, évidemment, c'est les périodes de reproduction de plein d'espèces, hein, que ce soit insectes ou...
Et vous pointez la contradiction de ces normes, où effectivement, il y a cette question du débroussaillement qui est interdit au printemps par les normes environnementales, mais qui est recommandé pour la lutte anti-incendie. Et parfois, effectivement, ça peut paraître contradictoire. Merci en tout cas d'être venu répondre ce matin, Antoine Damécourt. Vous nous dites ce matin que pour vous, il n'y a pas d'autre scénario que de replanter principalement des pins maritimes dans cette forêt des Landes. Et le débat va continuer. 8h22, l'économie sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre et le gouvernement qui veut faire des économies sur l'indemnisation des accidents du travail.
Absolument, la sécurité sociale sera un contributeur important à la réduction des déficits publics en 2027. Le gouvernement a déjà annoncé une réduction de 1,2 milliard d'euros sur les remboursements de médicaments. Ce à quoi s'opposait notre invité tout à l'heure.
Éric Chenu.
Exactement.
De la mutualité française.
Exactement, de la mutualité française. Eh bien, le gouvernement prévoit maintenant aussi d'économiser 800 millions sur les accidents du travail. 800 millions donc que le gouvernement compte trouver en suivant quatre pistes soumises aux partenaires sociaux qui ont rendu leur avis hier. Alors, il s'agirait d'abaisser le plafond des indemnités journalières. Il s'agirait de fiscaliser ces indemnités journalières. Aujourd'hui, elles sont exonérés d'impôts. Il s'agirait aussi de modifier la tarification des cotisations qui serait désormais calculée au niveau global de chaque entreprise et pas pour chacun des établissements de cette entreprise, usine par exemple, usine par usine pour un industriel, ce qui ferait contribuer davantage les grands groupes. Donc ces pistes de réforme, il semble bien que ça signifie moins d'indemnités pour les accidentés, plus de cotisations pour les entreprises et presque rien de neuf sur la prévention.
Et ça alors que la France n'est pas un modèle en matière d'accidents du travail.
Oui, c'est vrai, selon les statistiques d'Eurostat, la France apparaît régulièrement parmi les pays les plus mal classés en termes d'accidents du travail, mortels comme non mortels. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences de méthodologie avec d'autres pays européens. On inclut plus de choses dans les accidents du travail en France. Reste que ça n'explique pas tout. La France a par exemple une très forte exposition aux troubles musculo-squelettiques. Nos postes de travail sont moins bien aménagés, par exemple, où il y a moins d'attention qui est prêté à l'aménagement de notre environnement de travail que dans pas mal d'autres pays. Il y a un recours important à la sous-traitance et à l'intérim en France et puis toujours des difficultés persistantes en matière de prévention où là on est vraiment, vraiment, mais sur tous les sujets santé, de toute façon on est vraiment pas très bon en matière de prévention en France.
On termine comme d'habitude avec les chiffres de l'énergie aujourd'hui.
Petit répit aujourd'hui, 2,21 € le litre de gazole, c'est à peu près le niveau de ces derniers jours. Même chose sur le sans-plomb 95, 2,03 €. Le pétrole qui joue au yo-yo là se stabilise depuis deux jours, $87 le baril. Et puis le gaz reste élevé, mais pareil, on est sur des plateaux depuis 2-3 jours, 58 € le mégawattheure.
Petite stabilisation. Merci Emmanuel Le Chypre, il est 8h25. Allez, on va s'aérer un petit peu avec le meilleur d'Arnaud Demanche.
Apolline, attention.
Oui.
Attention.
Oui.
J'ai une grosse question.
Ah.
C'est important pour nous. Quel est votre président idéal? Qu'est-ce qu'on aimerait comme président? Parce que le journal La Tribune dimanche a publié un sondage sur ce sujet. Il n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Il est prêt à réformer et surtout prêt à préserver la concorde nationale à tout prix, quitte à pas réformer. Voilà, voilà. Les Français veulent à 76%. 76%, ils veulent un président honnête. Donc si Sarkozy se présente, il peut faire 24%. À 48%, ils le veulent courageux. Donc à 52%, ils veulent un lâche qui s'écrase devant la Russie, ce qui est cohérent. T'additionnes Bardella et Mélenchon, t'as tes 50%. T'ajoutes Dupont-Aignan, t'as les 52%.
Et voilà.
Et alors mon préféré, à 25%, il demande du charisme. Et alors là, vous allez voir comme la transition est toute trouvée. Apolline, attention, roulement de tambour, c'est à vous pour la relance.
François Hollande prépare sa candidature pour 2027.
Et avec les critères demandés, il a toutes ses chances du charisme. Il faut dire que c'est la Hollande mania en ce moment. Les gens sont sur les Champs-Élysées là. Il y a un vrai désir de Hollande dans le sens où les gens disent s'il revient, je me casse en Hollande. Vraiment. Il est en couverture de Marianne. Vous l'avez vu?
Ouais.
La couve, je me prépare. Il y a marqué je me prépare en gros. Tu sais pas si c'est une info ou une menace. Et il y a une grosse photo de lui en mode lover. Il regarde par-dessus ses lunettes.
Ouais.
Comme les secrétaires bombasses dans les téléfilms érotiques de M6. Il est à deux doigts de sucer un stylo. Et il y a une rose fanée devant lui. On dirait une pochette d'album de chanteur argentin, vous savez, pour draguer les vieilles du Vésinet. Et alors, dans l'interview, il est au top, il se la joue, je me suis pas accroché au pouvoir. Mec, t'étais à un mois du goudron et des plumes, quoi. C'est vraiment le gars qui te dit, j'ai pas trop insisté auprès de mon ex. En même temps, elle a changé de numéro, elle a déménagé, t'as une ordonnance d'éloignement. Alors, fais pas trop le kéké. On est tous vaccinés et ils tentent de revenir, on dirait la rougeole aux États-Unis. C'est lui qui a propulsé Macron. Et là, il veut être le remède au mal qu'il a créé. C'est comme soigner une gastro en allant au kebab. Je suis pas sûr de savoir la bonne stratégie.
Meilleur manœuvre.
Arnaud Demange a retrouvé en podcast quand vous voulez sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Dans un instant, un nouveau journal. On fera bien sûr le point sur les incendies, puis on surveille la météo avec cette alerte canicule qui s'étend à 16 départements. A tout de suite. 8h30.
RMC, Apolline Matin.
8h30, le journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Incendie toujours stabilisé en Gironde, mais la bataille est loin d'être gagnée. Les pompiers vont faire face aujourd'hui à des conditions météo défavorables. Un élan de solidarité à Lacanau, en Gironde. Bénévoles, agents municipaux se mobilisent pour soutenir les pompiers. Et plus 2% sur les cartables et les cahiers. La rentrée va coûter plus cher selon l'association Que Choisir Ensemble. Et les parents d'élèves s'y prennent plutôt pour limiter la facture.
La nuit a donc été calme en Gironde.
L'incendie est toujours stabilisé après 14 reprises de feu hier. Les pompiers toujours mobilisés aujourd'hui. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct ce matin de l'Eche-Cap-Ferré pour RMC. Avec le pic de chaleur et le vent annoncé aujourd'hui, la menace reste bien réelle.
Oui, et je vous signale à l'instant, Clément, une réactivation de feu dans la commune du Temple. On surveille de très près ici la météo. 30 degrés, effectivement, attendu à partir de 11h du matin ici en Gironde, et de fortes rafales de vent attendues également, des rafales qui pourraient atteindre, voire dépasser les 40 km/h. C'est pour ça et bien que le dispositif reste en place. 2700 pompiers mobilisés, avec notamment des pompiers venus de Suisse qui vont être présents pour assurer le renfort. Dans le ciel, une vingtaine d'appareils, et puis évidemment sur le terrain, des techniques qui seront utilisées, comme notamment les contre-feux tactique mise en place il y a quelques jours ici dans ce département. 42 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Aujourd'hui encore, c'est une journée à haut risque. Les pompiers vont rester très vigilants.
Jean-Wilfried Forquès en direct de l'Eche-Cap-Ferré pour RMC. Des reprises de feu également à Biscarrosse, une quarantaine hier. Elles ont été rapidement maîtrisées. L'incendie est fixé depuis lundi.
Le soulagement pour les habitants d'Aisine, de Mérignac et du Hayan, toujours en Gironde.
Ils ont pu regagner leur domicile, décision prise hier par la préfète de Gironde. Mais cela pourrait être de courte durée. Tout dépendra de l'évolution de l'incendie. Un retour très apprécié par les habitants du Hayan, comme a pu le constater notre envoyé spécial Justin Adel.
À peine le feu vert des autorités donné, Fabien n'a pas hésité.
Tout de suite, je suis revenu.
Un retour attendu avec impatience depuis 4 jours.
Ça soulage un petit peu quand même de savoir qu'on peut rentrer chez soi et pouvoir passer une nuit tranquille déjà chez moi, retrouver mes petits meubles et tout ça.
Pourtant, l'anxiété persiste.
Le feu, il est toujours là, les fumées sont encore présentes. On n'est pas à l'abri d'une alerte comme il y a eu dans la nuit de vendredi à samedi d'évacuation.
Malgré ce risque, Régis a lui aussi fait le choix de rentrer.
Ça fait du bien de revenir à la maison, mais bon, on reste quand même prudent, hein, puisqu'on a entendu la préfète et les deux conditions qui sont liées à notre retour. Mais ouais, ça fait du bien.
En effet, la préfecture demande aux habitants de garder leur téléphone allumé pour être alertés en cas de nouvelle évacuation. Ils doivent également avoir un sac prêt pour partir. Régis comprend ce retour sous condition.
On reste quand même vigilant. Puis si vraiment la préfète nous demande de repartir, on a joué le jeu, hein, on est parti. Voilà, on revient là, au bout de 4 jours. Donc s'il faut rejouer le jeu, on rejouera le jeu. Quoi.
Il se dit chanceux car, contrairement à d'autres habitants du département, il a pu retrouver sa maison intacte.
Et une chaîne de solidarité se met en place pour accompagner les pompiers à Lacanau. Une centaine de bénévoles, d'agents municipaux, de professionnels se relaient pour soutenir tous ceux mobilisés sur le terrain. Notre correspondant Pierre Bourgès est allé à leur rencontre pour RMC.
Melon, pizza, crêpes, tout est prêt sur la table face à la salle des fêtes. Ce militaire passe se ravitailler.
Bonjour, qu'est-ce que tu veux?
Je veux bien peut-être une petite barre céréales, si vous quelque chose comme ça.
Ouais,
merci beaucoup.
Bon courage, à tout à l'heure.
3 bénévoles sont chargés du service et juste derrière, Valérie s'occupe des stocks donnés par les habitants.
Il y a des salades en boîte pour manger sur le pouce, il y a des compotes, il y a des gâteaux secs. C'est un élan de solidarité qui est absolument incroyable.
Cette enseignante donne de son temps depuis le premier jour.
C'est normal de venir et qu'en plus...
On se sent utile et les journées passent beaucoup plus vite, elles sont beaucoup moins anxiogènes.
Avec elle, une centaine de bénévoles se relaient pour aider pompiers et forces de l'ordre qui peuvent manger, dormir et même se faire masser. Même les enfants mettent la main à la pâte comme Billie Jane.
On s'est occupé du stand à crêpes là-bas, on les a distribués à tout le monde et puis ils étaient contents.
De quoi attendrir ce gendarme venu reprendre des forces.
Ah là, j'ai pris mon petit 4 heures comme les enfants, un petit flan pâtissier. Ça fait du bien au moral. Les gens sont souriants, ils sont attentifs, ils demandent bien si on a soif, si on a faim. Et après, ils feront, pour ceux qui se reposent, ils sont discrets, il n'y a pas trop de bruit aux alentours. Bon, c'est vraiment agréable.
La salle des fêtes restera ouverte jusqu'à la fin de l'incendie.
Et RMC bouscule ses programmes ce matin pour contribuer à faire vivre cet élan de solidarité. Standard ouvert exceptionnellement jusqu'à midi aujourd'hui pour tous vos témoignages. Vous êtes bénévole, vous êtes en train de donner un coup de main, vous êtes vous-même évacué, vous voulez lancer un appel ou au contraire, vous voulez donner un coup de main, on vous met en relation, vous composez le 3216, vous nous écrivez sur WhatsApp au 06 12 424 424.
Et le rétropédalage du gouvernement, alors que la préfète de Gironde et la porte-parole du gouvernement demandaient en début de semaine aux touristes de reporter ou d'annuler leur venue dans le département. Le ministre Serge Papin lui appelle les Haussiens à maintenir leurs vacances une fois le feu fixé. Mais Martin Juré, les professionnels du tourisme, eux, sont inquiets pour leur saison.
Sur place, près du lac de Carcan, les tables en terrasse sont dressées, les snacks ont ouvert, mais l'endroit est désert. Depuis le début de l'incendie, les touristes sont aux abonnés absents. Dans son snack, Laetitia s'était préparée au coup de feu de fin juillet, 20 000 euros d'investis.
On a l'argent dehors parce qu'on avait commandé une grosse commande, sauf que les factures restent en attente. Parce qu'on se demande comment on peut s'en sortir de tout ça.
La suite de la saison, sans espoir pour elle. Même si le gouvernement a tenté de tempérer l'appel de la préfète de Gironde qui incitait les touristes à renoncer à leurs vacances dans le département, ce restaurateur qui affiche lui aussi salle vide est écœuré.
Bien sûr qu'on l'a fait. Bien sûr qu'on l'a fait. Mais de toute façon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si ça évolue toujours dans le même sens, je vais être obligé de délester la moitié de mon perso. C'est des bons gamins. Mais bon, je peux pas faire autrement.
D'autres ne lâchent rien. C'est le cas d'Alexia. Elle reçoit régulièrement des appels d'Haussiens inquiet dans son camping.
Nous, on leur dit oui, effectivement, on leur donne les conseils de comment on peut venir chez nous.
L'objectif, c'est quoi ?
C'est de les rassurer, de leur dire qu'on est ouvert.
Les professionnels espèrent en tout cas être indemnisés pour leur perte d'exploitation après l'incendie.
Et organisez-vous si vous avez un train à prendre aujourd'hui. Tous les TGV au départ de Paris auront Bordeaux comme terminus, sauf ceux qui prennent la direction de Toulouse et de Tarbes. Les mauvais chiffres de la sécurité routière sur les autoroutes l'année dernière, 144 accidents mortels, soit 30 de plus qu'en 2024. Chiffre de l'Association des sociétés d'autoroutes, la vitesse excessive est à l'origine de 19% des accidents et concerne principalement les jeunes.
8h37 sur RMC. Les fournitures scolaires, c'est la saison, coûtent 2% plus cher cette année.
Chiffre de l'association Que Choisir Ensemble, dévoilé à début juillet. Il est conseillé de s'y prendre plus tôt pour profiter des meilleurs prix. Et visiblement, Martin Lange, les parents d'élèves l'ont bien compris.
Solène a un fils qui rentre en 6e. Depuis 48 heures, elle arpente les grandes surfaces pour trouver le cahier.
Il fallait que ça soit un 24-32 de 140 pages.
Comme chaque année, elle achète ses fournitures bien avant la rentrée, un choix stratégique.
On va aux endroits où il y a des promotions, donc effectivement c'est moins cher et il y a moins de monde parce qu'au mois de septembre, on a l'impression d'être dans une fourmilière, c'est très désagréable.
Avec ses deux filles, Sandrine aussi flaire les bonnes affaires.
Les troisièmes cahiers offerts ou ce genre de choses, en général, c'est vrai que c'est plus intéressant à cette période.
Car le budget rentrée scolaire pèse lourd, plusieurs centaines d'euros par enfant selon certains parents. Avec ses trois garçons, Pierre-Cyril tente de réduire la facture.
On essaye de réutiliser un petit peu ce qui est encore en bon état des années précédentes. Le petit plein que j'ai fait aujourd'hui, j'ai bénéficié d'une offre 100% remboursée sur certains produits.
Selon l'association de consommateurs Que Choisir Ensemble, la fin du mois de juillet est la période idéale pour acheter les fournitures. Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation.
C'est le bon moment pour deux raisons. Un, vous avez une offre qui est maintenant complètement disponible en magasin. Et en termes de prix, c'est effectivement à ce moment de l'année que les prix sont les plus bas.
Certaines enseignes peuvent continuer les promotions à la fin de l'été, mais les réassorts ne sont pas garantis, ce qui peut vous contraindre à acheter au prix fort.
Le quintet du jour, c'est à Enghien à 19h.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori le 9, Gisou Détang, et leur outsider le 14, il vient du Lude.
Clément Gouitz pour le journal, il est 8h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, RMC aux côtés de ceux qui donnent un coup de main aux pompiers. Immense élan de solidarité en Gironde. Les agriculteurs sur leurs tracteurs avec leurs citernes. Ils creusent, ils arrosent, ils ouvrent les chemins. C'est le choix de la rédaction ce matin. Un reportage avec notre équipe sur place. Et puis le président des jeunes agriculteurs de Gironde. Il est sur le terrain. Il sera avec nous. À tout de suite.
RMC. Apolline Matin.
Il est 8h42 sur RMC. C'est l'heure du choix de la rédaction aux côtés de ceux qui donnent un coup de main aux pompiers ce matin. Des civils venus de toute la France, de toute profession. Il y a les agriculteurs, des charpentiers aussi, qui luttent à quelques pas des flammes contre les reprises de feu qui sont incessantes ces dernières heures. Sur place pour RMC, le reportage d'Inès Zegloul.
À 200 mètres, le brasier, nuée d'avions au-dessus de nos têtes, pluie de cendres.
Bonjour, je peux pas me charger tout seul, faut que ça soit avec une pompe.
Trace de suie sur le visage, comme indélébile, Arnaud est agriculteur. Il a abandonné ses vignes en Charente-Maritime.
Je suis arrivé dimanche soir et je suis venu prêter main forte au mouvement.
Là, vous êtes venu pour aider. Oui. Vous avez votre fourgon, vous dormez dans votre fourgon dans les salles des fêtes pendant des jours durant pour aider les pompiers.
C'est ça, exactement. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu... Comment dire, qu'on manque de moyens par rapport à l'ampleur de la catastrophe, quoi, voilà. Ça m'ennuie de rester à rien faire, quoi. Attention. Non. De rester à rien faire pendant que tout ça est en train de brûler. Pardon.
Mettez-vous tous par là, nous, notre entrée sera par là.
D'accord. Il y a un grand plan d'eau devant nous. Et on va remplir la citerne là, pour aller apporter ça aux pompiers.
Un énième aller-retour au lac, oui, il faut remplir les réservoirs, les cuves.
Je suis en train d'ouvrir la citerne pour que tu puisses...
Au plus vite.
Qu'on puisse mettre le tuyau dedans pour la remplir d'eau. Vous avez un départ juste ici, là.
Un départ de feu ?
Ouais, encore une fois. La fumée noire par-dessus les forêts de pins.
Un de plus ?
Ouais.
Le bruit des pompes, incessant, l'eau coule inlassablement comme s'il n'y en avait jamais assez. Une équipe de charpentiers arrive sur site, le regard dépité.
À toutes les fumerolles et tout. Ce qui reprenait, on les a éteintes, nous, avec nos moyens, on lance...
Tout seul.
Et oui, oui, mais oui. Le désarroi, on est impuissant.
Le deuxième est tuyau, ça va ?
Mais on n'arrête pas, en fait. On est partout, à droite, à gauche, là où on peut aider.
Et ça commence à être long, confie l'un d'entre eux.
Ça nous coûte cher d'être là, à la journée. Je perds 550 euros par jour. C'est ce que je devrais facturer à la journée, si tu veux. Une boîte de lui, comme lui, là, il est pareil. Il doit, même lui, là, il en est à plus de 800 ou 1000 euros de sa poche au gasoil. Il a une boîte de 6 personnes et il a 3 ouvriers qui sont là avec nous. Et ça, tu peux te le permettre, mais pas longtemps.
Non,
accroche-toi vraiment. Là, on a fini de charger. Donc là, on va récupérer les motopompes. Je remplis mon camion d'eau.
Sourire rapide d'un pompier.
Pour pouvoir après aller sur le feu, pour pouvoir le balancer sur le feu.
Avec les cuves que vous ramènent les civils, c'est ça ?
Tout à fait.
Rassurant.
Heureusement qu'ils sont là.
Au milieu du chaos.
Top !
Signé Inès Zegloul pour RMC en Gironde. Et on est en ligne ce matin avec le président des jeunes agriculteurs de Gironde. Bonjour Théo Hernandez. Bonjour à vous, merci d'être avec nous au 32-16. Vous êtes sur le terrain, encore une fois, ce matin, comme ce qu'on vient de voir dans le reportage, pour apporter de l'eau aux pompiers.
Tout à fait, oui. Là, on est en train de finir l'entretien des tracteurs pour pouvoir repartir. Alors, on attend que la colonne qui est devant nous... repartent pour pouvoir aller pomper de l'eau et les alimenter.
Vous êtes combien là à faire ça ? Comment ça se passe ? Vous le faites depuis le début ? Ça fait une semaine là que vous êtes sur le pont ?
Oui, ça va faire bientôt une semaine qu'on est présent sur site. Nous, de jeunes agriculteurs, on a à peu près une quinzaine de tracteurs sur place, mais l'ensemble des agriculteurs, il y en a à peu près 150 et 180 tracteurs cuves. Voilà.
Tout ça s'est fait spontanément dès le début. Les pompiers tout de suite vous ont dit bah ok, venez.
Ah, on sait pas forcément les pompiers qui nous ont dit de venir comme ça. Hein. On a l'expérience des feux de 2022, donc et puis on sait très bien que là, avec la canicule, l'eau c'est quelque chose qui est quand même assez critique. Donc on s'est de suite porté volontaire pour partir sur le terrain. On a des JA du 24 qui nous ont rejoints, d'autres du 17, et on a eu même plein d'appels de notre réseau, même limitrophe de la Nouvelle-Aquitaine, en disant si vous voulez qu'on vienne vous relever, on peut vous relever.
Et vous repartez au front des incendies dès ce matin. Merci pour votre témoignage ce matin, Théo Hernandez, président des jeunes agriculteurs de Gironde. Cet élan de solidarité aux côtés des pompiers, on va le vivre toute la matinée sur RMC. Standard ouvert au 32-16 jusqu'à midi. Vous nous appelez si vous êtes comme Théo sur le terrain, si vous venez en aide aux pompiers, si vous faites partie des évacués, que vous avez besoin d'aide, ou si vous voulez tout simplement donner un coup de main à distance depuis l'autre bout de la France, envoyer peut-être des colis, des vêtements. On a a beaucoup de messages ce matin sur le WhatsApp 06 12 424 424. On attend aussi vos appels au 32 16 et on va vivre tous ensemble cette solidarité, émission spéciale jusqu'à midi sur RMC. 8h47, dans un instant, on va aller au CHU de Bordeaux, l'hôpital de Bordeaux qui est en alerte avec les incendies mais aussi avec la canicule qui arrive. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h49 et nous sommes toujours sur RMC, RMC Story. Nous allons au CHU de Bordeaux en direct ce matin. Bonjour Thomas Meynier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez le pôle des urgences du CHU de Bordeaux. 40 degrés attendus à Bordeaux aujourd'hui. Et bien sûr, l'incendie qui continue à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Sur ces deux fronts, vous êtes au niveau d'alerte maximale aujourd'hui ?
Oui, absolument. Nous sommes engagés depuis la fin de semaine dernière aux côtés des pompiers en coordination totale pour être à disposition pour d'abord les pompiers, nos soldats du feu, et puis évacuer les populations et prendre en charge les populations qu'ils nécessitent avec une vraie préoccupation et alerte pour cette nouvelle journée, une deuxième journée de reprise de canicule. Avec la crainte de reprise d'incendie, de vent qui nécessiterait d'évacuer des établissements et des personnes si jamais le feu progressait à nouveau.
Vous avez notamment pris en charge les plus fragiles. C'est ça, la préfète disait hier que les 2400 personnes qui avaient été évacuées des EHPAD dans la zone de l'incendie ont toutes trouvé refuge quelque part. Vous en accueillez vous-même au CHU de Bordeaux ?
Oui, on en a accueilli d'abord sur le parc Expo de Bordeaux qu'on a médicalisé avec les équipes du SAMU, avec une solidarité de nombreux SAMU de France qui nous ont aidés et puis des bénévoles, enfin des volontaires de la médecine de ville qui se sont signalés pour nous aider. On a environ 1100-1200 personnes qu'on a pris en charge dans ce parc Expo et puis le CHU de Bordeaux dans un élan de solidarité important avec un plan blanc qui avait été déclenché au niveau régional. Plus de 4000 soignants du CHU ont répondu à l'appel pour rouvrir des lits supplémentaires et on a accueilli des centaines de personnes sur le CHU de Bordeaux avec notamment un ancien EHPAD qui était fermé, qu'on a rouvert sous l'autorité du directeur général Vincent-Nicolas Delpech en quelques heures pour accueillir 120 personnes.
Ça veut dire, vous dites, il y a eu cet élan de solidarité, c'est-à-dire que certains personnels de l'hôpital, des soignants, ont annulé leurs vacances pour pouvoir rester cette semaine ?
Oui, de nombreux soignants sont revenus sur leur repos et certains sont revenus sur leur congé ou ont annulé leur congé pour justement faire face et on est dans un état de mobilisation générale.
Est-ce que les fumées qui ont envahi Bordeaux, surtout ces derniers jours, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas maintenant, mais est-ce que ces fumées ont déjà un impact que vous ressentez en termes d'appel au 15 ou de visites aux urgences ?
Alors, pas beaucoup sur les visites, sur les passages aux urgences, parce que finalement, les gens font attention et se protègent, mais il y a eu une explosion des appels au 15 lors des premiers jours, avec plus de 50% d'augmentation d'appels, des gens qui, au moment où les fumées sont arrivées sur la métropole bordelaise, étaient très très inquiets, nous appelaient pour savoir que faire. On a le centre antipoison de Nouvelle-Aquitaine au sein de nos équipes qui a été beaucoup sollicité aussi par rapport à ces craintes de ces hauts. Et on a une grosse vingtaine de patients qui ont été pris en charge sur le CHU par rapport aux effets de la fumée sur ces quelques derniers jours.
Alors dans ce contexte, il y a les fortes chaleurs qui reviennent, on le dit. Le département de la Gironde va passer en alerte orange aujourd'hui pour risque de canicule. Ça rajoute de la tension forcément dans vos services ?
Oui, parce qu'on est déjà très mobilisés sur les évacuations et les conséquences sanitaires de ces incendies et on va revivre ce qu'on a vécu fin juin et ce qu'on avait déjà vécu fin mai avec une vague de canicule nouvelle dont on avait bien vu les impacts qu'elle pouvait avoir notamment sur les plus fragiles. Et donc ce sont deux crises qui s'ajoutent et face auxquelles nous allons faire face avec des équipes dont je dois dire je suis très fier tant par leur engagement que la qualité des soins qu'elles procurent.
Les climatiseurs du gouvernement, vous en avez reçu ?
Alors, on en a reçu sur le CHU. Je ne saurais pas vous dire combien, mais sur mes services au sein du pôle urgence SAMUS-MUR, on était déjà climatisés. Donc, ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions et de prendre en charge les patients dans les meilleures conditions.
Vous disiez là, tout repose sur cet élan de solidarité. Il y a les médecins de ville qui donnent un coup de main. Il y a les médecins qui reviennent de vacances ou qui annulent leur congé. Ça peut tenir combien de temps si cet incendie dure, si la chaleur se maintient ?
Les médecins et tous les professionnels de santé, hein, on a des infirmiers, des kinés, des pharmaciens aussi qui nous aident. Ça peut tenir, j'ai envie de vous dire que ça tiendra le temps qu'il faudra. Moi, je me réjouis de voir toute cette solidarité qui s'est mise en place de professionnels de santé, de personnes simples, citoyens qui viennent filer un coup de main pour donner à manger aux gens au hub du parc des expos, pour simplement faire des dons. Il y a une vraie solidarité nationale.
Et vous la ressentez aussi. Ouais, vous la ressentez aussi au service des urgences que vous dirigez donc au CHU de Bordeaux. Thomas Meynier, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Cet élan de solidarité, ben on continue de le vivre sur RMC. Émission spéciale en direct jusqu'à midi. Standard ouvert avec Julie Brault et avec Rémi Barré qui me rejoignent. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Sébastien. Effectivement, RMC bouscule ses programmes. RMC, tu l'as dit. Standard ouvert spécial incendie. Vous ou vos proches avez été évacués. Vous souhaitez apporter votre aide, ouvrir les portes de chez vous. Certains nous le disent déjà, hein, là sur le WhatsApp de l'émission. Il y a François qui nous dit qu'il habite Varage, un village très proche de Barjols dans le Var. Et il propose d'héberger des habitants qui ont été évacués, qui ont vu leur maison endommagée. Jusqu'à 6 personnes, il peut les héberger. Voilà, vous témoignez, vous proposez votre aide, vous nous appelez. C'est simple, hein, c'est le 3216. Hubert attend vos appels et le WhatsApp de l'émission RMC standard ouvert, c'est le 06 12 424 424. C'est de 9h à midi avec Julie Brault à mes côtés. On attend tous vos appels.
À tout de suite à tous les deux. Le standard est ouvert, on vous attend jusqu'à midi en direct sur RMC.